De retour à Chiz 94.3 pour Chérie, j'arrive aujourd'hui, 20 janvier. C'est l'arrivée officielle de Joe Biden à la Maison-Blanche et le départ de Trump. On a été bien servis dans les actualités, des actualités hallucinantes, des choses qu'on pensait pas voir. Et bon, ça nous a donné un peu d'inspiration ici à Chérie, j'arrive. J'ai mandaté notre chroniqueur littéraire, Alex Tremblay-Lamarche, de nous trouver des ouvrages pour un peu comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement, outre la pandémie, bien évidemment. Et il nous a déniché trois ouvrages pour mieux comprendre ça. Salut Alex.
Salut Gabrielle.
Merci beaucoup de revenir, parce que c'est ta première apparition en 2021, puis d'avoir préparé cette chronique-là qui m'intrigue vraiment beaucoup, je te l'avoue.
Oui, ben ce que je me suis dit, c'est essayons de plonger dans l'histoire, essayons de plonger dans la sociologie pour mieux comprendre les mouvements de colère qu'on a aux États-Unis actuellement et pour être capable justement de remettre en contexte l'investissement de Joe Biden. Est-ce que c'est la première fois qu'on a une foule en colère comme ça qui se pointe au Capitole pour tout détruire? Au Capitole, dans l'histoire récente, oui, mais des foules en colère, la montée de la droite et une colère contre les plus riches, eh bien, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années et on va en parler ensemble.
Oui, et le premier ouvrage que tu as pour nous, ça s'appelle « La mémoire rompue, les défis de la coexistence confessionnelle au consulat lyonnais 1563-1567 ». C'est un ouvrage d'Ariane Godbout. C'est un long titre, mais qui a une histoire fascinante derrière.
Exact. Prémisse. On est, imagine, une foule en colère de 1200 personnes qui, au cours d'une nuit, va réussir à s'emparer d'une des villes les plus importantes d'un pays et en devenir maître. Le gouverneur des lieux est alors absent. Son second est vraisemblablement gagné aux idées des insurgés. Et bon, mais ces gens-là vont réussir à prendre le contrôle de cette ville-là. Ça fait penser à ce qui s'est passé aux États-Unis à quelques nuances près, parce que bon, ben les insurgés du Capitole n'ont pas réussi à prendre le contrôle sur les autorités. Mais ça se passe à Lyon, en France. Dans la nuit du 29 au 30 avril 1562, les deux forces en présence cette fois-là ne sont pas les partisans de Trump et bon les
heureusement
forces policières. Ce sont plutôt
Alex. Oh, je pense qu'on a un petit. Est-ce que tu es encore là?
Oui.
Ah, OK. Bon, je pensais que ça avait coupé. Oui, mais alors, les deux parties qui sont présentes dans cette insurgation, je vais l'inventer ce mot-là.
Insurrection.
Oui, c'est les protestants et les catholiques.
Oui, les protestants et les catholiques, justement, s'arrachent le royaume. On est à l'époque moderne et, Luther, il n'y a pas si longtemps, a remis en question les dogmes de l'Église catholique. Et Lyon est une ville à l'époque qui n'est pas si loin que ça de la Suisse, qui est un des foyers de propagation de la réforme protestante. Et donc, il y a plusieurs personnes à Lyon qui sont séduites par ces idées-là et qui souhaitent prendre le contrôle de la ville. On est à l'époque des guerres de religion en France. Et donc, ces personnes-là vont prendre la ville de Lyon, qui est une place financière assez importante, une place où il y a beaucoup d'imprimeries, donc beaucoup d'idées qui circulent. Et ce faisant, justement, imposer leur pouvoir face au pouvoir catholique qui régnait depuis longtemps.
Et il y a une lueur d'espoir dans cette histoire-là, parce que oui, les protestants, prennent le contrôle, mais ils doivent toutefois, un an plus tard, se rendre et commencer la délicate période de cohabitation entre protestants et catholiques. Est-ce que ça donne de l'espoir pour la situation américaine actuelle?
Oui, tout à fait. Parce que, c'est ça, c'est cette espèce de période-là où les protestants réussissent à prendre la ville. Elle ne durera pas longtemps. Elle dure entre le mois d'avril 1562 et 1563. Donc, ça dure à peu près un an. Et à partir de 1563, à cause de l'édit d'Amboise, dorénavant, la ville repasse entre le contrôle des catholiques, sous le contrôle des catholiques, mais il va y avoir une place pour les protestants dans l'appareil politique. Et donc, par exemple, on a 12 consuls. Grosso modo, les consuls, c'est ceux qui gèrent la ville. Il va en avoir 8 catholiques et 4 protestants. Et c'est là que le livre d'Ariane Godbout est particulièrement intéressant parce qu'elle montre, une fois justement que cette insurrection-là a eu lieu, comment est-ce que les catholiques et les protestants vont faire pour vivre dans cette ville-là, les sources de tension qu'il va y avoir, mais aussi les sources de collaboration, les rapports de force qui s'établissent, parce qu'il n'y a plus de catholiques Mais les protestants détiennent en fait certaines clés du pouvoir et ils doivent apprendre à cohabiter ensemble.
Alors après la colère, il y a un retour à la raison.
Oui, tout à fait, mais ça n'empêche pas effectivement des rapports de force parce que, bon, comme je disais, on a 8 consuls catholiques, 4 consuls protestants, mais ça prend 7 personnes pour avoir le quorum. Et donc, soudainement, ben, quand on a 2 catholiques qui ne sont pas là pour certaines raisons ou davantage, pouf, tous les consuls protestants s'absentent. Et bon, ben, ça fait que les réunions du conseil sont remises à plus tard. Donc, il y a un jeu de pouvoir qui joue de ce côté-là. Il y a également toute la question des fêtes publiques, parce qu'à l'époque, bon, les fêtes catholiques, ce sont des fêtes qui servent à cimenter le ciment social, un peu comme aujourd'hui la sermentation de Joe Biden devait le faire. Mais à partir du moment où on a certains des consuls de la ville qui sont protestants, est-ce que c'est encore possible de cimenter la vie sociale via les fêtes catholiques? Eh bien, c'est une question à laquelle Ariane Godbout répond dans ce livre.
Dans cet ouvrage-là qui se nomme « La mémoire rompue, les défis de coexistence confessionnelle au consulat lyonnais 1563 à 1567 », c'est Ariane Godbout qui a écrit ça. C'est une lueur d'espoir après les violences qu'il y a eu au Capitole il y a quelques jours déjà et qui ont été ravivées un petit peu avec l'entrée officielle de Joe Biden à la Maison-Blanche. Il y a également l'ouvrage « Droitisation et populisme Québec et États-Unis », un livre écrit par Frédéric Boily, qui a piqué ton attention, Alex.
Exact. Ben, les gens qui ont envahi le Capitole la semaine passée, ce sont en grande partie des gens qui se revendiquent de la droite, de QAnon et compagnie. Et l'ouvrage de Frédéric Boily est particulièrement le bienvenu dans ce contexte-là pour comprendre cette montée du populisme-là et également cette montée de la droite en Occident.
Et là, ce qu'on voit, c'est que on voit une montée de la droite, mais ça ne date pas d'hier. Et le populisme et la droite, faut pas toujours les associer ensemble.
Exact, parce que le populisme, c'est quelque chose dont on se revendique depuis de nombreuses années. Dès la fin du 19e siècle, il va y avoir des fermiers qui vont vouloir s'imposer contre une élite politique en place et qui vont se revendiquer du populisme. Au final, le populisme, ce que nous dit Frédéric Boily, c'est un peu cette troisième voie. L'idée, justement, qu'on a, les conservateurs, les libéraux aux États-Unis, ici, on a les conservateurs, les libéraux aussi, par exemple, et qu'on essaie de se faufiler entre les deux et de rassembler le peuple plutôt que les élites politiques conservatrices ou les élites politiques libérales. Par exemple, Jimmy Carter, lorsqu'on va lui demander s'il est libéral ou s'il est conservateur, va spontanément répondre « Je ne suis ni un ni l'autre, je suis populiste ». Même chose, Reagan, Clinton vont se revendiquer de cette étiquette-là. Donc, elle n'a pas toujours été négative, cette étiquette-là, avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui.
Et pourquoi on démonise ça, le populisme, à ton avis?
Eh bien, c'est parce que pour comprendre pourquoi est-ce qu'on démonise le populisme aujourd'hui, il faut comprendre que parallèlement à cette montée-là du populisme, on a également une montée d'une nouvelle forme de droite. Après avoir eu une première montée de la droite entre 1980 et 2000, qui est une droite qui veut assainir les finances publiques, donc qui est plutôt une droite économique avec Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Brian Mulroney au Canada, on a une deuxième droite à partir de 2001 à peu près, qui, elle, est plutôt une droite identitaire, une droite inquiète, qui, elle, comme le communisme est tombé puis qu'il n'y a plus de lutte à avoir contre le communisme comme avant, dorénavant, il faut chercher des nouveaux ennemis. Et les nouveaux ennemis, ça devient, le terroriste, ça devient l'immigrant. Et donc, cette droite-là va tranquillement, flirter avec la xénophobie. Et c'est là que le populisme, lorsqu'il va reprendre en fait cette droite-là, notamment avec le Tea Party, mais aussi avec d'autres partis comme le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, que là, on va venir dans un cocktail un peu dangereux, là.
Je rappelle le titre de l'ouvrage « Droitisation et populisme Québec et États-Unis » de Frédéric Boily. Le Québec, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans dans cet ouvrage-là?
Eh bien, c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que l'ouvrage de Frédéric Boily nous permet de comprendre la situation aux États-Unis et au Canada, mais il nous permet aussi de la comprendre au Québec. Notamment lorsqu'on parle de populisme, il y a cette volonté-là qu'a eu les créditistes, nos auditeurs les plus âgés vont se souvenir des créditistes qui étaient ce parti proche des gens un petit peu rural qui tentait de s'imposer entre les libéraux et les conservateurs au Québec dans les années 60-70. Plus récemment, Frédéric Boily nous parle de l'ADQ, puis de la CAQ, qui va tenter de s'imposer entre, d'une part, les libéraux, d'autre part, les péquistes, qui s'échangent le pouvoir depuis les années 1960. Et là, hop, on a une voix qui se veut plus près du peuple, qui va tranquillement réussir à s'imposer. Et donc, il y a un certain populisme, dans la façon, en fait, dont Frédéric Boily l'envisage, qui se voit également au Québec depuis cette époque.
Alors, un ouvrage de Frédéric Boily, Droitisation et populisme Québec et États-Unis. Et on termine ta chronique, Alex, avec 1% reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches. C'est un essai de Vandana Shiva.
Oui. Une autrice qui vient de l'Inde, que je ne connaissais pas avant de tomber dans son livre, et qui est fascinante. On a beaucoup entendu parler depuis un certain temps de critiques contre Bill Gates. Bill Gates, il est accusé de vouloir implanter la 5G devant les gens, dans les gens grâce au vaccin, etc. Et donc, il y a toutes sortes d'idées que je qualifierais de farfelues.
Oui, c'est d'un bon mot poli.
Alors que, concrètement, il y a d'excellentes raisons d'être inquiet de Bill Gates et de vraies raisons de l'être. Et Vandana Shiva, en fait, nous les donne et de façon documentée, de façon claire et appuyée, effectivement, par des arguments. C'est un ouvrage qui est particulièrement intéressant pour comprendre pourquoi ce 1%-là des plus riches, et en particulier Bill Gates, peuvent mettre à mal l'écologie et la planète.
Oui, parce que là, on parle, entre autres, de philanthrocapitalisme, donc le fait que, les grandes entreprises vont investir dans des œuvres caritatives, mais que ce sera vraiment pour leur réputation ou encore qu'ils vont... Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, là, de pouvoir acheter la propriété intellectuelle du vivant pour en prendre de plus en plus de pouvoir, donc le fait, justement, de jouer dans l'ADN, les OGM et tout ça. Et pourquoi on se penche là-dessus, précisément, de le philanthrocapitalisme, la propriété intellectuelle du vivant? Pourquoi c'est problématique?
Ce que tu dis est super intéressant. La raison pour laquelle c'est que c'est problématique, commençons avec la propriété intellectuelle du vivant. C'est que c'est ces gens-là qui sont très, très riches, qui, jusqu'à tout récemment, petite statistique, en 2010, il y avait 388 milliardaires dans le monde, qui possédaient autant de choses que la moitié de la planète.
Wow!
C'est immense. Et en 2017, donc 7 ans plus tard, il y a 8 personnes qui possèdent autant de richesses que la moitié de la planète, les 8 personnes les plus riches. Et donc, on voit que tranquillement, il y a eu une concentration entre certaines mains. Et ces gens-là, notamment, Bill Gates, ils ont décidé de favoriser la délocalisation des travailleurs via justement des pressions qui ont été faites pour favoriser la libre circulation. Donc, si tu achètes un ordinateur qui vient de l'Inde, tu ne paieras pas de frais de douane dessus parce que, par exemple, on a des ententes de libre-échange avec ces pays-là. Je ne sais pas si c'est le cas avec l'Inde, mais elle parle effectivement de l'Inde qui a des ententes de libre-échange avec certains pays. Et donc, ça permet de payer moins cher des travailleurs. Et en contrepartie, l'idée, ça permet à ces entreprises-là de faire plus de profits et de payer moins les travailleurs. Mais en contrepartie, elles vont aller chercher beaucoup de profits en mettant des brevets sur des choses. Et donc, l'ordinateur te coûte moins cher, mais le logiciel, le droit de propriété intellectuelle, lui, va te coûter quelque chose. Et là où ça devient particulièrement problématique, c'est quand on en est sur le vivant, comme tu le mentionnais, parce que, qu'il y a une graine qui sert à planter du maïs. Cette graine-là, avant, n'importe quel agriculteur pouvait en planter chez lui, ou toi, si tu décides de faire un jardin dans ta cour cet été, tu peux planter du maïs. Mais à partir du moment où tu es une compagnie qui modifie légèrement cette graine-là, tu es capable de le faire breveter en disant « c'est mon invention », mais ça fait que l'agriculteur qui plantait du maïs avant, il ne peut plus parce que cette graine-là devient une propriété intellectuelle de la compagnie qui l'a légèrement modifiée.
C'est hallucinant.
Et ce faisant, on enlève la propriété de milliers, en fait, d'agriculteurs dans des pays plus pauvres, voire même, dans des pays riches comme le nôtre.
C'est vraiment des arguments qui font en sorte qu'on doit re-questionner encore et encore ceux qui détiennent le plus de richesses. Ça, c'est le livre « 1% reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches », un essai de Vandana Shiva. C'est les trois ouvrages que tu nous as présentés. C'est vraiment pour bien comprendre ce qui se passe sur la scène politique actuelle, autant aux États-Unis avec Joe Biden aujourd'hui que même chez nous avec les certains changements qu'on voit.
Effectivement, et peut-être pour conclure sur le philanthrocapitalisme que tu avais mis de l'avant,
oui.
C'est cette idée qui est particulièrement intéressante, mais enfin qui est un peu vicieuse, et qui permet de passer un programme politique. Parce que la fondation Bill Gates et Melinda Gates, ben, elle va, par exemple, donner des millions à l'Afrique pour aider justement les fermiers locaux. Mais ce faisant, elle arrive avec des semences dans lesquelles il y a des OGM. Et donc, si les fermiers locaux ne désiraient pas